Bonjour à tout le monde, merci d'être ici donc pour ce début de série de cours sur l'enzymologie. Comme certains d'entre vous le savent, on a déjà commencé à traiter cette question l'an dernier, d'où le même titre avec le numéro 2 ou le retour. Donc on va continuer à évoquer un certain nombre de choses intéressantes, nouvelles, qui se passent dans le domaine de l'enzymologie. Alors, il y a des biais dans ces présentations parce qu'évidemment, il y a certains systèmes qui m'intéressent plus que d'autres, certains systèmes que je connais mieux que d'autres. Et comme l'objectif, c'est quand même de comprendre un peu en détail ces nouveautés-là, il vaut mieux en comprendre la nature profonde. Alors, donc, on repart pour une série de 6 séances. Chaque fois, comme d'habitude, j'aurai un invité qui parlera d'enzymologie avec ses propres projets de recherche. Donc, vous voyez, c'est ici le mercredi, mais ce n'est pas vrai cette année tout le temps, puisque je le mentionne ici. En fait, le 17 novembre, il y a au Collège de France un colloque qui est lié à l'initiative Avenir commun durable. Donc, il y a un colloque qui s'appelle Changement climatique, transition ou adaptation, qui a lieu toute la journée. Si vous êtes intéressé, vous pouvez y participer, bien sûr. Mais de fait, donc, il n'y aura pas de cours. Donc, le cours a été avancé au lundi 15 novembre. Donc, lundi 15 novembre, il y a le second cours et ensuite, on reprend les mercredis. Voilà. Je vais parler de cette notion d'enzyme suicide, mais aujourd'hui. Mais avant, et j'aurai l'occasion de le redire, je voudrais remercier Bernard Henrissa qui nous a rejoint, venu du Danemark, pour nous parler d'une enzymologie qui est peut-être un peu moins connue que certaines autres, dans la mesure où, c'est un domaine immense, et c'est celui de le métabolisme des sucres, et donc c'est de ça qu'il va nous parler. Bon, c'est le premier cours, on est obligé de rappeler des choses extrêmement fondamentales. C'est une slide que j'ai utilisée la dernière fois, c'est-à-dire l'an dernier. C'est la base, je vous la rappelle, mais ça permet d'introduire quelque chose qui va poser la question de qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces enzymes suicides. Donc une enzyme, c'est un catalyseur. C'est un catalyseur qui accélère des réactions. Ici, la réaction qui est proposée, c'est cette molécule bleue et orange et qui se casse en deux. Voilà une réaction qui demande de l'énergie, qui est lente s'il n'y a pas de catalyseur. Et donc, une enzyme, c'est un catalyseur, en l'occurrence, une chaîne polypeptidique qui a ce pouvoir de fixer le substrat et le déstabiliser et de le transformer. Et vous voyez que dans ce schéma-là, l'enzyme initiale, et c'est la définition d'un catalyseur, est redonnée à l'identique à la fin d'un cycle. Et donc, cette protéine peut refonctionner une deuxième fois en fixant une deuxième molécule. Le schéma cinétique, il est là, c'est le plus simple. Donc, si vous transformez un substrat en un produit P, c'est une réaction chimique en effet qu'on peut décrire sous cette forme-là, mais lorsqu'elle est catalysée, en particulier par une enzyme identifiée ici comme E, vous avez une première étape qui est la fixation du substrat, et une fois qu'on a ce complexe enzyme-substrat, on a le phénomène de catalyse et la transformation du substrat en produit qui, à nouveau, j'insiste, redonne l'enzyme totalement intacte. Cette association entre l'enzyme et le substrat, et c'est le rôle de cette enzyme, de faire quelque chose qui est clé, c'est de changer la cinétique en abaissant l'état de transition de la réaction. Donc la barrière énergétique est diminuée et les cinétiques sont accélérées. Et dans les systèmes enzymatiques, il y a des accélérations absolument fantastiques, d'ailleurs sans équivalent dans certains cas avec ce que la chimie sait faire. Et c'est ça qui fascine depuis très très longtemps les chimistes, en particulier les biochimistes, qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui fait que cette enzyme a un tel pouvoir d'accélération des cinétiques et de baisse des énergies de transition. Alors, je vais parler de ce concept d'enzyme suicide qui est un peu curieux, mais et qui pose des tas de questions, parce que, alors, en anglais, c'est suicide enzymes. Je ne suis pas sûr que la traduction soit enzyme suicide ou, je ne sais pas moi, enzyme suicidaire. Mais en tout cas, la question, c'est que depuis longtemps, et on continue à en trouver, c'est ce que je vais raconter. Eh bien, au lieu d'avoir ce schéma avec un substrat qui se transforme en produit et on met de côté, vous voyez, sous la flèche, un catalyseur, c'est une protéine, il y a des cas où, au cours de la réaction, cette enzyme est modifiée irréversiblement et donc devient inactif. Le produit est bien donné, mais vous n'avez fait qu'un cycle catalytique, de sorte que vous ne pouvez pas repartir pour un deuxième cycle, sauf dans le cas où, évidemment, cette modification est enlevée, ce qui est rarement le cas dans les exemples qu'on connaît. Et donc, il y a tout un tas de questions par rapport à ces situations, à savoir, est-ce que la nature n'a pas trouvé d'autres solutions chimiques à un procédé de cette... un processus de cette nature-là, dont vous comprenez bien qu'il est particulièrement coûteux, puisque si cette enzyme est inactive, on ne peut plus rien en faire, elle doit être dégradée, et c'est toute la machinerie de biosynthèse de la protéine qui doit être remise en œuvre, et c'est effectivement extrêmement coûteux. Donc, quand on est dans une situation comme ça, il y a aussi, évidemment, des tas de spéculations sur le fait que c'est artefactuel, éventuellement. C'est qu'on n'a pas trouvé les conditions pour faire tourner l'enzyme, qu'on a déclenché des réactions qui dégradent l'enzyme parce qu'il y a une certaine disposition à faire une transformation. On n'a pas les bons cofacteurs ou les bons substrats, néanmoins on a produit quand même P et on peut rechercher aussi les systèmes qui réparent cette protéine, parce que effectivement l'hypothèse la plus souvent avancée, c'est que c'est tellement coûteux de refaire une protéine à chaque cycle qu'il y a sûrement dans la cellule un système de réparation. Et il faut le trouver. Et si on ne le trouve pas, eh bien on en reste à cette notion d'enzyme suicide. Et puis il y a une troisième chose qui est discutée, c'est le fait que la modification pourrait conduire à une nouvelle activité de l'enzyme, de sorte que... c'est une sorte de modification post-traductionnelle qui est associée à une réaction chimique qui donne un produit utile pour la cellule, mais qui déclenche, au fond, la création d'une nouvelle enzyme qui devient active pour autre chose. Souvent, ce genre d'hypothèse... enfin, ce genre d'hypothèse est rarement appuyé par des résultats, c'est-à-dire qu'on dit que vous lisez les articles et vous y lisez que, en effet, la protéine a peut-être une nouvelle fonction, mais on ne sait pas laquelle. Je vais revenir au départ, et le premier exemple dans l'histoire de l'enzymologie de telle enzyme suicide, c'est une enzyme de réparation. De réparation de l'ADN, qui est la protéine ADA, qui est la méthylguanine DNA méthyltransférase. En fait, vous avez des situations dans lesquelles l'ADN peut être agressé par des réactifs chimiques et en particulier par des molécules méthylantes qui introduisent des groupements méthyl, je sais pas, des molécules genre méthylnitrosourée, enfin des agents méthylants de l'environnement et qui conduisent à des méthylations soit sur les méthyls, soit les triestères sur le phosphore, vous voyez, pour donner des méthylphosphotriestères ici de la chaîne, soit sur des bases elles-mêmes et en particulier avec la formation de méthylguanine. Et donc, il a été montré que la protéine ADA, qui participe à la réparation de ces systèmes, réagit en fixant le méthyl de façon covalente. En particulier ici, vous voyez, c'est un exemple où ce méthyl est sorti du phosphore on retrouve la situation initiale, la structure chimique initiale, mais on a un accrochage covalent du méthyl sur ADA. Alors, effectivement, dans cette condition-là, ADA ne peut plus fonctionner pour méthyler, mais néanmoins, ce qui a été montré dans ce cas-là, c'est peut-être un exemple de nouvelle fonction qui apparaît, c'est-à-dire que sous sa forme méthylée, ça devient un facteur de transcription qui déclenche à la fois la biosynthèse de ADA elle-même, qui évidemment voit sa concentration augmenter et donc peut venir agir sur l'ADN, et déclenche aussi la biosynthèse de certaines protéines qui sont des enzymes de réparation, comme ALKA. Vous voyez, c'est des travaux qui sont maintenant anciens, mais de mon point de vue, c'est le premier exemple. Alors, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais il y a eu quelques structures, jamais de la protéine entière pour le moment, mais uniquement d'une partie C-terminale qui est proposée comme étant celle qui fixe l'ADN et qui permet de positionner près d'une guanine méthylée, par exemple, ici, comme vous voyez, ça c'est une guanine méthylée, d'avoir une cystéine qui doit être quand même qui doit être activée, hein. La cystéine est protonée ici, mais qui doit être assistée par des acides aminés qui permettent de déprotoner cette cystéine pour avoir un cystéinate qui, à ce moment-là, devient suffisamment nucléophile pour accrocher le méthyl. Mais à ce moment-là, vous voyez que cette cystéine ne peut plus fonctionner. C'est un accrochage covalent irréversible. voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Et maintenant, je vais parler d'exemples plus récents. Et ce qui est assez intéressant et assez intriguant, d'une certaine façon, c'est le fait qu'on va voir beaucoup de choses dans le domaine de la biosynthèse des composés soufrés. Alors, ici, c'est une petite liste de composés soufrés en biologie. C'est des choses que ceux qui assistent à mes cours savent, parce que j'en parle souvent, je le redis ici, mais ce n'est pas toujours bien connu que les cellules contiennent un très grand nombre de molécules soufrées et que la question du métabolisme du soufre, c'est-à-dire les sources de soufre initiales, de l'environnement, le transport du soufre, le contrôle de ce soufre qui, s'il était en excès trop important, serait toxique, et tous les mécanismes d'insertion d'atomes de soufre dans toutes ces molécules complexes. Ce sont encore des questions qui ne sont pas totalement résolues et sur lesquelles des gens travaillent. Donc vous avez toute une série de molécules, de cofacteurs, et je vais parler de biotine, d'acide lipoïque, en particulier, et puis je vais parler de thiamine pyrophosphate. Comme je serai amené aussi à parler de clusters métalliques qui contiennent du soufre, je rappelle quelque chose que, là aussi, les fidèles à ce cours connaissent bien, ce sont les clusters fer-soufre, donc ce sont des assemblages, le plus classique est celui-là, vous voyez, avec une structure cubane, c'est des assemblages d'atomes de fer et de soufre. Ici, dans le cube, ce sont des atomes de soufre, hein, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de carbone. Et ce cluster-là, on appelle ça un cluster, est attaché à la protéine grâce à des liaisons avec d'autres atomes de soufre, mais ceux-là sont des, ce ne sont pas des ions sulfure, mais sont des cystéines en particulier. Et puis vous avez toutes sortes de systèmes plus ou moins complexes qui sont des clusters fer-soufre. Alors, je vais donc parler d'un autre exemple récemment montré d'activité suicide dans une chimie qui est évidemment d'une biochimie qui est particulièrement importante. Hein, c'est un cofacteur majeur, hein, la thiamine pyrophosphate, qui est essentiel chez tous les organismes vivants. Et donc sa biosynthèse nécessite d'une part la biosynthèse de la pyrimidine, dont je ne parlerai pas, et de la biosynthèse du thiazole, dont vous voyez qui contient cet atome de soufre. Et ensuite se fait le couplage entre les deux molécules, mais je ne parlerai que de la synthèse du thiazole. Et en fait, c'est une très grande diversité de chemins biosynthétiques qu'on trouve dans le vivant. Hein. Vous avez une situation extrêmement incroyable, je dirais, qui est notamment chez la levure, où vous n'avez qu'une seule enzyme pour faire une chimie. Vous allez voir le pathway qui est d'une très très grande complexité, hein, qu'une seule enzyme, tandis que, par exemple, chez les bactéries, pour faire la même réaction, hein, la biosynthèse de cette molécule, vous avez besoin de 5 ou 6 gènes. Vous avez besoin de 2 substrats, la glycine et le NAD+, et c'est une enzyme qui est fer-dépendante. Alors, voilà le pathway. Vous voyez, vous partez de NAD, vous faites l'ADP ribose, vous faites l'ADP ribulose, c'est là qu'intervient la glycine. La glycine s'accroche et puis à la suite de toute une série de transformations donne cet intermédiaire glycinimine, que vous pouvez écrire comme ça, 13 ou 12, avec la double liaison, enfin, c'est un transfert de protons. Et ensuite, vous avez à ce niveau-là l'introduction d'un atome de soufre et fermeture du cycle pour arriver jusqu'à l'ADT, qui est le thiazole. C'est absolument incroyable. Une seule enzyme fait tout ça chez la levure. Et ce qui est clair, c'est que lorsqu'on fait tourner cette enzyme, ou même qu'on l'isole, qu'est-ce qu'on observe ? Ici, vous voyez l'enzyme toute seule. Vous rajoutez l'ADP ribose. Voilà, vous ajoutez l'ADP ribose, c'est en rouge. Vous ajoutez l'ADP ribose et la glycine, il n'y a toujours pas, parce que c'est l'ADT5, il sort ici en chromato, il ne se passe toujours rien, donc vous avez des pics qui correspondent à chacune des molécules que vous avez rajoutées. Et puis dès que vous rajoutez du fer, à ce moment-là, vous voyez apparaître le thiazole. Donc l'enzyme plus l'ADP ribose, enfin, vous auriez pu partir de là, mais ici, c'est pas... On est parti d'ici, des fois c'est des essais enzymatiques qui partent de l'ADP ribulose, mais il faut de la glycine, il faut du fer, et on voit ici qu'il n'y a aucune source de soufre qui a été apportée à l'enzyme, et malgré tout, on a une molécule complexe avec un atome de soufre. Et de fait, la spectrométrie de masse a montré que cette protéine avait une masse inférieure de 32, et que donc, en effet, ça indiquait la possibilité qu'il y ait un atome de soufre qui soit sorti de la protéine d'une façon ou d'une autre. Les choses ont avancé lorsqu'il y a eu une structure aux rayons X qui, vous voyez, au début des années 2010, qui a montré parfaitement bien, donc c'est une structure de la protéine en présence d'ADT, donc du produit hein, du thiazole, et en face, vous avez une déhydroalanine, c'est-à-dire une cystéine qui a perdu son atome de soufre. Et qui est d'ailleurs assez bien positionnée. Vous voyez le soufre ici final, il n'est pas loin de ce qui serait une cystéine ici. Et donc l'idée, en effet, c'est qu'on a eu possibilité de transférer cet atome de soufre. Imaginez une cystéine ici à la place de la déhydroalanine. Il y a besoin de fer, et en effet, donc l'hypothèse de travail. Alors, cette déhydroalanine, elle est en position 205. Si vous partez d'une enzyme active, mais dans laquelle vous mutez cette sérine et cette alanine, ils sont actifs. Ils sont inactifs, hein, ce qui montre que voilà, mais ils peuvent devenir actifs si vous ajoutez du sulfure. Bon, ça c'est une information. Évidemment, lorsque vous avez la déhydroalanine, que vous récupérez cette protéine et que vous la testez, eh bien, elle est inactive. Et donc l'hypothèse de travail, c'était que, en effet, cette cystéine 205 était transférée au précurseur. Dans le schéma que j'ai montré tout à l'heure, l'intermédiaire qui va être soufré à travers une attaque de ce soufre qui est activé par interaction avec le fer pour attaquer cette position ici. Et c'est ce qu'on retrouve là, et par un transfert de doublé, vous introduisez le soufre à la bonne position et vous fermez le cycle. Voilà. Et dans ces articles-là, ce que vous lisez, c'est pourquoi la levure utilise une cystéine du site actif plutôt qu'un sulfure exogène pour faire la biosynthèse du thiazole. Voilà, vous voyez, dans ce genre de papier, on ne connaît pas la réponse à cette intéressante question. Voilà, et là, c'est à nouveau ce genre d'hypothèse qui est fréquente, mais qui n'est jamais validée expérimentalement. La possibilité, c'est que la formation du thiazole déclenche une modification post-translationnelle et que, soi-disant inactive protéine, a une fonction nouvelle dans la levure. Donc c'est, en effet, un état de suicide, puisque... en se séparant de son soufre, l'enzyme devient inactive. Alors, les choses sont assez complexes parce que ce n'est pas général. Et il existe des protéines, des homologues, et notamment chez les méthanogènes, chez les archébactéries, où cette enzyme, la même, est catalytique, alors que la précédente ne l'est pas, hein. Utilise du sulfure de sodium, fixe un fer, on l'a dit, et qu'il n'y a pas de formation de déhydroalanine dans ce cas-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de cystéine à la position correspondante de l'enzyme précédente. C'est une histidine. Et donc, à nouveau, on a la possibilité de faire réagir cette ADP ribose avec du fer et de la glycine, et on forme le thiazole. Et plusieurs cycles catalytiques sont possibles en présence de sulfure de sodium. Ici, on voit que lorsqu'on a tout sauf le sulfure de sodium, il ne se passe rien, et quand on rajoute du soufre exogène, ça marche, on forme le produit. Il y a eu des structures aux rayons X de ces familles-là d'enzymes, et en particulier, voilà, on ajoute à l'enzyme de l'ADP ribose, de la glycine, du fer. Qu'est-ce qu'on observe? On observe la formation de ce complexe qui, vous voyez, est accroché au substrat et est accroché à la protéine par deux acides aminés, une histidine et un aspartate. Dans ce cas-là, la réaction ici entre ce précurseur qui va être soufré et le soufre se fait avec une source de soufre qui n'est pas une cystéine, mais qui est un soufre exogène de type sulfure. En tout cas, in vitro, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et donc, dans ces systèmes-là, eh bien, le fer se fixe transitoirement. Il fixe, et ça, c'est l'hypothèse, il fixe un thiol exogène, un thiolate, un sulfure, qui peut attaquer la molécule substrat qui est elle-même accrochée au fer, ce qui facilite évidemment le transfert de soufre. Et je ne rentre pas dans le détail, mais une fois que le soufre est introduit, par toute une série de transferts de protons et de transferts de charges et de doublés, vous arrivez au système final. Et donc, on se retrouve dans des situations où, au fond, il y a des systèmes qui ne sont pas suicides et on se demande toujours pourquoi, chez la levure, on a une cystéine et pas une histidine, et que dans ce cas-là, la chimie de ce système-là est d'arracher cet atome de soufre. Alors ici, j'ai représenté ça sous forme HS-, mais ça ne veut pas dire que c'est du HS- libre qui fonctionne. Voilà. Donc, c'est ça, une enzyme suicide, mais l'existence, vous voyez, d'enzymes homologues qui fonctionnent de façon différente laisse penser que peut-être ce qu'on a appelé enzyme suicide n'en est pas une et que ce sont des conditions expérimentales de laboratoire qui font qu'on n'a pas trouvé les bonnes conditions pour faire fonctionner le système. Un autre système intéressant, c'est un autre exemple d'utilisation, enfin d'enzyme suicide, c'est à propos de cette enzyme, la lactatracémase. Alors cette enzyme-là, elle a été découverte en 2015. Elle catalyse cette interconversion entre le L-lactate et le D-lactate. Et la structure au rayon X, d'une part, la spectrométrie de masse, d'autre part, et a montré l'existence d'un cofacteur qui n'avait jamais été découvert auparavant. Donc ce cofacteur, il est indiqué ici, voyez. Et ce cofacteur, c'est un cofacteur métallique qui contient du nickel, d'ailleurs organométallique, puisque vous voyez que vous avez une liaison nickel-carbone. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ce nickel est accroché à un ligand qui contient deux atomes de soufre. Hein ? C'est ça qui est important, et la chimie ici de conversion, de racémisation, se fait au niveau de ce site actif de l'atome de nickel. Immédiatement, les gens qui se sont intéressés à ce cofacteur, qui est assez unique, pas tellement pour les chimies, j'ai déjà raconté un peu cette histoire, mais pas sous l'angle suicide, mais vous verrez peut-être dans des cours de l'année dernière, que en fait, ces structures-là de ligands sont assez classiques pour les chimistes qui en ont fait des tas, mais à ma connaissance, c'est le premier et dernier exemple d'un complexe organométallique que les Anglais appellent pincer, parce que vous voyez, le nickel est accroché par une pince à trois atomes, carbone, soufre, soufre. Et donc, les gens se sont intéressés à la biosynthèse de ce cofacteur qui démarre avec le NAAD, le nicotinique acide adénine dinucléotide, qui subit une réaction de carboxylation ici, vous voyez. Donc là, on retrouve deux carboxylates en méta de ce cycle, et c'est là qu'on introduit, par une protéine qui s'appelle l'ARE, on introduit les deux atomes de soufre. Vous voyez, on a une sulfuration de ces carboxylates. Et ensuite, on a une autre protéine qui fixe le nickel, et une fois qu'on a ce cofacteur, il y a une dernière protéine qui l'introduit dans... on a l'ARA, pardon, la racémase, qui récupère ce cofacteur métallique dans l'ARC et l'introduit au bon endroit dans le cycle catalytique. Le site actif. Donc, ce qui est intéressant, c'est ici cette réaction, et La question, c'est comment ça se produit. Eh bien, là aussi, ce qui a été démontré, et je vais aller assez vite, c'est qu'il se passe exactement la même chose que dans la protéine précédente, à savoir que on découvre que l'ARE, qui possède une cystéine, utilise cette cystéine pour attaquer le carbonyle des acides carboxyliques ici, pour faire des thioesters, pardon, c'est pas des thioesters, des acides, des, je ne sais plus, voilà, des thioacides, et faisant cela, cette cystéine devient une déhydroalanine, exactement comme dans le cas précédent. Donc, c'est l'hypothèse qui a été montrée, proposée sur la base, évidemment, de données expérimentales. Et ne rentrons pas dans les détails, mais l'ARE fait ça deux fois, puisqu'il y a deux atomes de soufre qui doivent être introduits ici et là sur la même molécule. Donc, cette protéine, l'ARE, aussi consomme sa cystéine du site actif, qui se transforme en déhydroalanine, et l'enzyme perd son activité. Ça, c'est un peu complexe, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ici, oui, c'est toute une série de, si vous voulez, de structures. Peut-être ça peut... Alors, ça peut vous donner une petite idée. Donc, c'est une molécule complexe, hein, c'est un hexamère. Et vous avez une partie ici, un domaine pyrophosphatase qui est très remarqué par certaines séquences, hein, comme ici SGG, X, DS, qui permet donc de fixer le substrat. Ici, vous avez un modèle de fixation du substrat où vous voyez à la fois le substrat lui-même. Alors, vous voyez ici, il n'y a pas le carboxylate là, et là, c'est une fonction amide, mais c'est juste pour vous montrer ce modèle qui est en interaction pi avec un tryptophane qui est absolument essentiel. D'ailleurs, quand on le mute, il n'y a plus du tout d'activité. Et la fameuse cystéine, elle est là, pas loin, et c'est elle qui va attaquer un carboxylate qui serait ici pour faire la réaction. Donc, tout est organisé pour cela. Et donc, c'est ça le mécanisme qui est aujourd'hui proposé, où vous avez cette cystéine 176 qui attaque donc ce carbonyle activé, crée une liaison ici S, et ensuite vous avez élimination pour donner le produit final. Voilà comment les choses se passent. Et comme résultat, vous avez cette déhydroalanine. Vous voyez, initialement, vous aviez carbone CH2S et vous n'avez plus que CH2 avec une double liaison. C'est ça, la déhydroalanine. Et l'enzyme, après, vous comprenez bien, ne peut plus fonctionner. Juste un dernier point, c'est que, évidemment, chaque fois qu'on est dans cette situation, on se dit... À nouveau, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un artefact? En fait, des études bioinformatiques, l'analyse des génomes, ont montré qu'il y avait différents types de l'ARE. Vous ne voyez pas bien, mais il y a l'ARE que je vous ai montré à l'instant, de Plantarum, et qui possède, en effet... deux motifs. Le motif qui contient le fameux tryptophane qui est absolument essentiel, hein, que je vous ai montré, et puis un motif qui contient la cystéine. Et en fait, il y a toute une série de... Donc ça, c'est des séquences, hein, on ne peut pas très bien le lire, mais sur un millier de génomes, on s'aperçoit qu'il y en a un certain nombre qui ont qui sont des LARE, effectivement, mais qui ont des séquences justement dans ces deux motifs très différents, et en particulier Dans cette partie-là, il y a deux cystéines. La troisième cystéine est toujours là dans le même motif. Le gros changement, c'est dans ce motif-là. Et quand on fait des structures, donc qu'on compare la structure que je vous ai montrée tout à l'heure de Plantarum et qu'on compare à un modèle de l'areux de ces bactéries qui sont un peu particulières, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que le tryptophane ici est remplacé par une cystéine. Que la deuxième cystéine, vous voyez, hein, ici, il y a deux cystéines à la place du tryptophane. Hein. Et donc, c'est bien ce qu'on retrouve ici. Ce tryptophane est remplacé par une cystéine. Il y a une deuxième cystéine. Et la cystéine qui était consommée, elle se retrouve ici à proximité, de sorte qu'on a un ensemble de trois cystéines. Et la question qui se pose, c'est de savoir si là, on n'a pas une autre chimie qui peut se mettre en place, notamment avec des ions métalliques et en particulier un cluster fer-soufre, dans la mesure où il a été montré par ailleurs qu'on peut faire des réactions de sulfuration avec des centres métalliques, et notamment des clusters fer-soufre. Mais vous avez vu précédemment, dans le cas de la biosynthèse du thiazole, c'est qu'on a vu un cas où il y avait une enzyme suicide et d'autres cas, notamment chez les méthanogènes, où c'était une enzyme, une métalloenzyme, ce n'était pas un cluster, mais un atome de fer qui permettait de faire une sulfuration non suicide en utilisant du sulfure exogène. Et la question qui se pose est la même ici. Je vais parler maintenant de deux enzymes que nous avions étudiées il y a longtemps et qui continuent à être étudiées parce qu'elles sont complexes et qu'on n'a pas encore tout résolu, c'est la biotine synthase et la lipoate synthase. Ce sont la biotine et l'acide lipoïque des cofacteurs absolument majeurs du vivant, là aussi. Vous voyez ces molécules-là, donc un atome de soufre ici et dans ce cycle, et ici deux atomes de soufre au bout de l'acide octanoïque. Et nous allons voir comment ça marche. Alors là, on retombe sur quelque chose que j'ai raconté depuis longtemps, je vais aller très vite, ce sont les enzymes radical SAM. En fait, ces deux enzymes, la biotine synthase et la lipoate synthase, donc qui permettent l'incorporation de ces atomes de soufre, sont des enzymes radical SAM. Alors, je vais avoir juste une dia pour rappeler ça, mais j'ai raconté ça mille fois déjà dans le passé. Les enzymes radical SAM ont deux propriétés. Une propriété structurale qui est que ce sont des enzymes qui contiennent des clusters 4 fer 4 soufre, hein, ici, vous voyez ici, qui fixent une molécule de S-adénosylméthionine. Voilà, par la partie aminocarboxylate finale. Cette S-adénosylméthionine, c'est un sulfonium S+ ici qui est connu pour être un donneur de méthyle parce que ce méthyle est très électrophile. Mais ici, il faut oublier cette chimie-là. C'est pas du tout une chimie ionique. C'est une chimie radicalaire. Parce que la deuxième propriété, c'est qu'une fois que vous introduisez un électron là-dedans, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une cassure de cette liaison soufre-carbone. Et vous créez une entité absolument remarquable, qui est ce radical 5' déoxyadénosyle, qui est un puissant arracheur d'atomes d'hydrogène et qui peut activer à peu près n'importe quelle molécule. Et c'est pour ça que la nature a choisi ce type de chimie très largement dans le métabolisme. Et voilà, une fois que vous avez un substrat qui est assez peu réactif, mais que vous lui arrachez un atome d'hydrogène pour donner un radical intermédiaire, ce que fait ce radical à deux points, à ce moment-là, vous avez une espèce d'une très grande réactivité et vous pouvez déclencher une chimie que vous ne pouvez pas déclencher à ce niveau-là. Voilà, c'est ça le principe. Donc, c'est comme ça qu'on va activer... Vous voyez ici, ces atomes de carbone dans lesquels on va introduire l'atome de soufre sont particulièrement inertes et vous imaginez donc sur le principe que je viens d'indiquer, que si vous arrachez un atome d'hydrogène ici et là, vous allez avoir une entité qui va être très réactive et sans doute très affine pour fixer un atome de soufre. Donc ça, c'est la première question qui est résolue. La deuxième question, c'est voilà, d'où vient cet atome de soufre, à nouveau. Le premier résultat qui allait dans le sens d'une sorte de changement de paradigme, notamment dans la chimie des fers-soufre, C'est un papier de Cathy Drennan en 2004 au MIT, publié dans Science, qui a obtenu pour la première fois, et je dirais pour la dernière, puisque plus personne n'a jamais pu obtenir une structure Orion X de la biotine synthase après 2004, avec de multiples essais, donc coup de bol, elle a eu à ce moment-là, et c'est une formidable structure qui montre le cluster 4-fer-4-souf de cette protéine, qui fixe la S-adénosylméthionine en violet, et puis il y a dans cette protéine, je ne l'ai pas dit, mais un deuxième cluster qui est ici, qui est un 2-fer-de-soufre, et en plus dans cette structure, vous avez le substrat. Et ce que vous voyez, c'est que, et c'est repositionné ici, c'est-à-dire que le carbone qui va devenir radicalaire, il est ici, hein, vous voyez, il est là, il est pas très loin du substrat, donc assez facilement, il pourra arracher un atome d'hydrogène, et une fois radicalisé ici, c'est pas très loin d'un cluster de fer de soufre. Et là, il y a une hypothèse assez révolutionnaire à l'époque, c'est que c'est le cluster là, appelé auxiliaire, qui est le donneur d'atomes de soufre. Et c'était la première fois, en 2004, qu'on annonçait une nouvelle fonction pour le don de l'atome, pour un cluster fer soufre, avec cette hypothèse qu'un cluster fer soufre pourrait être une façon opérée par la nature pour stocker, transporter des atomes de soufre et ensuite les donner à un substrat pour une réaction de sulfuration. Voilà. Et donc, c'est le type de mécanisme qui a été proposé. Vous voyez, le S-adénosylméthionine se radicalise, arrache un atome d'hydrogène, vous avez une première fixation de soufre. Vous avez un deuxième arrachement d'atomes d'hydrogène, nouveau radical, ce radical se couple avec le soufre, et ainsi vous avez produit votre molécule. Simplement, vous avez dégradé là aussi, et c'est pour ça que j'inclus ça comme enzyme suicide, vous avez créé un cluster qui est dégradé et qui n'est plus actif puisqu'il n'a plus d'atomes de soufre pour faire le job. Donc, à nouveau, on se retrouve dans une dégradation stoichiométrique du cluster, et là la question qui se pose à nouveau, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas un artefact, et si c'est vrai, comment la nature fait pour se débarrasser de ce cluster dégradé, en remettre un autre, mettre en place toute la machinerie de biosynthèse des fers soufre qui est quelque chose de très coûteux. Voilà. C'est la même chose avec la lipoate synthase, ça c'est des résultats plus récents. Donc, voilà, je vais aller tout de suite. Donc, je ne rentre pas dans le détail. En réalité, si vous voulez, ce n'est pas l'acide octanoïque hein, qui est le substrat de cette enzyme. C'est une fois que cet acide octanoïque est fixé à certaines protéines de type acyl carrier protéine ou lipoyl carrier domain. Donc, c'est en fait une protéine hein, qui est substrat de la lipoate synthase. C'est un détail, mais retenez simplement cette partie-là. Vous voyez, c'est ici que va se faire la sulfuration. Et là, il y a des structures aux rayons X, vous voyez, plus récentes, qui sont apparues. Et là aussi, avec un modèle, ici, c'est une lysine dans lequel c'est un substrat modèle, une lysine sur lequel est accroché l'acide octanoïque. Et on retrouve une structure avec un cluster 4-fer-4-soufre, la S-adénosylméthionine, le substrat, et là aussi, il y a un deuxième cluster qui est parfaitement bien positionné, comme le précédent, sauf que c'est un 4-fer-4-soufre et pas un 2-fer-2-soufre. Et tout est à nouveau bien positionné pour que ce cluster envoie un électron dans la S-adénosylméthionine, crée un radical ici, ce radical arrache un atome d'hydrogène ici, et une fois qu'on a le radical ici, on a un atome de soufre qui peut réagir. C'est ça qui a été proposé, à nouveau, sans rentrer dans le détail, c'est ce qui est écrit ici, vous voyez, création du radical 5' déoxyadénosyle, il arrache un atome d'hydrogène, le soufre ici est à côté, on crée une liaison entre le soufre du cluster qui commence à se dégrader un tout petit peu et le carbone ici numéro 6 de l'acide octanoïque ou de son dérivé. Vous noterez, j'ai oublié de le mentionner, qu'ici on a un cluster 4 fer 4 soufre un peu particulier avec une sérine comme ligand, ce qui est assez rare. Et puis ça continue puisque il faut introduire un atome de soufre ici également. Ça passe par un arrachement d'atomes d'hydrogène, un radical qui attaque un deuxième atome de soufre. Et donc là aussi, vous produisez votre acide lipoïque, mais au détriment d'une dégradation massive de ce second cluster. Et là, même question, c'est suicide. Alors, bon, les choses ont été assez bien... Il y a eu de belles choses qui ont été démontrées. Et en particulier, vous voyez, c'est plus récent encore... c'est avec un modèle maintenant peptidique. Donc c'est le peptide porteur de l'acide octanoïque. C'est pour ça qu'il y a une lysine, hein, avec une chaîne octyle. Donc si vous prenez votre enzyme LIPA, vous prenez la SAM, un réducteur et ce peptide, vous faites bien entendu un radical à dos point et les gens qui ont travaillé là-dessus, et c'est toujours Cathy Drennan, a étudié ce LIPA modifié après cette chimie-là. Et ce qu'on observe, c'est que le 4 fer 4 soufre qui portait la S-adénosyl méthionine est intact, c'est en cohérence avec le mécanisme que j'ai montré. Par contre, en effet, il n'y a plus de 4 fer 4 soufre dans la position auxiliaire. Et on voit que le peptide est fixé, en effet, au cluster, dans cette structure, que la méthionine est sur le 4 fer 4 soufre SAM, vous voyez, parce que quand on casse la SAM, on donne de la méthionine en plus de dos point, et à dos point, quand il arrache un atome d'hydrogène, il devient 5' déoxyadénosine, et tout ça se trouve dans la structure. Alors je vais simplifier, hein, peut-être là où on voit le plus, mais en tout cas, si vous voulez, voilà le substrat, et on observe donc. Non, c'est pas ici. Oui, ça c'est avant réaction. Excusez-moi, c'est A et B, donc vous avez les deux clusters, il n'y a rien dedans. Vous avez votre cluster 4 fer 4 soufre particulier avec une sérine et 3 cystéines. Et après réaction, la structure aux rayons X montre que vous avez votre substrat avec une liaison covalente sur un atome de soufre d'un cluster qui ressemble à un 3 fer. Voilà, donc... Ce sont des données qui allaient dans ce sens-là. Donc, juste remarquer à nouveau, mais je l'avais déjà fait, que vous avez, aussi bien dans la lipoate synthase que dans la biotine synthase, je redonne la figure que j'avais montrée précédemment, vous avez une organisation très particulière pour une chimie extrêmement complexe, qui est une chimie radicalaire, qu'il faut parfaitement bien contrôler, sinon ces radicaux attaquent un peu n'importe quoi. Et le radical, à nouveau, qui est créé ici, permet d'arracher un atome d'hydrogène qui se fixe sur le soufre. Ça, c'est le cas de la lipoate synthase. Ici, il n'y a pas le même type de structure qui a été obtenue au cours de la réaction, mais néanmoins, il y a la structure, dans le cas de BioB, de la disposition de tous les réactifs avant qu'ils se mettent à réagir. Voilà. Peut-être je vais terminer sur un autre exemple, un dernier exemple. Donc, vous voyez, c'est le tout dernier exemple. C'est publié en 2020. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous faire comprendre ça euh, le plus vite possible et le plus clairement possible. On est toujours dans la biosynthèse de la biotine, hein, à nouveau un cofacteur majeur, et vous voyez que malgré l'importance de ce cofacteur, on continue à découvrir de nouvelles choses du point de vue de l'enzymologie et de la biosynthèse. Jusqu'à présent, j'ai parlé de cette dernière étape uniquement, vous voyez, le cycle ici est fermé, et on introduit les atomes de soufre ici, pour faire ce deuxième cycle. Si on regarde ce qui se passe en amont, je ne vais pas aller trop loin, mais il y a d'abord, après une série de réactions, la production de ce composé, qui est le 8-amino-7-oxo-nonanoate, hein, puisqu'on a une fonction acide, et il y a une première protéine BioA qui introduit un atome d'hydrogène ici. Il y a différents donneurs d'atomes d'hydrogène qui sont possibles. Et ensuite, pour former ce cycle-là, on a une protéine qui s'appelle BioD, qui a fait cette chimie assez intéressante qui est ATP-dépendante de carboxylation de l'amine et fermeture du cycle pour donner ce composé, qui est la déthiobiotine, le précurseur de la biotine. En fait, l'analyse à nouveau des génomes révèle qu'il y a tout un tas de systèmes vivants qui n'ont pas de bio-A, ce sont des archées bactéries, des cyanobactéries, voilà. Et contrairement à Coli et à Subtilis qui ont un BioA, il n'y a pas de BioA. Et donc les gens ont appelé ce gène BioU. Et ont pu démontrer que ce BioU était un BioA-like, mais pas tout à fait. Et qu'en tout cas, ce BioU permettait la transformation de cet AON, le 8-amino-oxonononanoate, pour aller à... en fait, vous verrez à la déthiobiotine. Et la question initialement, c'est est-ce que BioU est juste remplacé, est là pour remplacer BioA? Bon, très rapidement, les gens ont montré que si... vous partez de ça et vous mettez BioU à la place de BioA, vous ne formez absolument pas le produit que BioA forme. Et puis, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on fait... donc, vous voyez, AON plus NADPH plus divers donneurs d'azote, on voit que le NADPH et l'AON sont consommés, mais on ne forme pas de... on ne forme pas de DAN. Et puis, en réalité, lorsqu'on fait cette réaction, on observe qu'il y a un adduit sur BioU. Donc, DAN ne sort pas comme produit, c'est-à-dire l'AON rentre, mais il n'y a aucun produit qui sort. Par contre, il y a la molécule qui reste accrochée à BioU, et ceci est vu par... par spectre de masse, analyse de peptides, et en fait, on s'aperçoit que... je vais faire ça plus simplement. On s'aperçoit que... où est-ce que c'est? Oui, voilà, le plus simple, c'est de retenir cette image-là. On s'aperçoit que c'est la lysine 124 de BioU qui est accrochée au substrat. Et donc, vous voyez que c'est cette amine-là, c'est-à-dire que ce n'est pas une amine exogène, genre S-adénosylméthionine ou lysine, qui peut faire le boulot, mais là aussi, c'est le cas où un acide aminé de la protéine fait le job. Et ici, c'est la lysine 124, ça a été montré par la diapositive précédente, je ne suis pas rentré dans le détail parce que je n'ai pas le temps, qui s'accroche. Et on en reste là. À nouveau, je rappelle que dans le cas de... on en reste là, mais on a pour le moment pas de, d'évidence de formation ici, de fermeture du cycle, ça s'arrête là. Et donc l'hypothèse ensuite qui a été proposée, donc ça, ça a été vu à la fois donc, par spectro de masse, analyse de peptides, et puis par cristallo, je ne rentre pas dans le détail ici, mais l'hypothèse c'est qu'à ce moment-là, BioU servirait de substrat à l'introduction du CO2 pour continuer à faire la chimie jusqu'à, jusqu'à la déthiobiotine. Et en effet, une fois que vous avez ce conjugué et que vous traitez par BioD, et c'est ce qu'on voit ici, en fonction de la présence de NAD+ en particulier, vous voyez apparaître le produit, mais ce produit, ce n'est pas cet intermédiaire, c'est déjà celui-là qui donne la déthiobiotine, et votre lysine 124 n'est plus une lysine, mais est maintenant sous une forme semi-aldéhyde qui est totalement inactive. Donc après un cycle catalytique, vous avez détruit votre lysine 124 en aldéhyde qui ne peut plus faire le boulot. Donc là, à nouveau, c'est un exemple, et c'est le plus récent exemple aujourd'hui, mais on continue donc à découvrir ces enzymes suicides. Donc je remontre à nouveau, BioU a une lysine qui est un donneur d'amine qui attaque le carbonyl ici, puis le CO2 réagit sur cette fonction amine, et ensuite vous avez cet intermédiaire et BioD que BioD prend en charge pour faire la déthiobiotine. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça suffit comme ça. Voilà. En conclusion, on continue à découvrir cette chose curieuse qui est, et vous voyez, jusqu'en 2020, à ma connaissance, BioU est le dernier exemple d'une enzyme suicide. On continue à découvrir des systèmes qui ont cette particularité de se détruire après un cycle catalytique. À nouveau, d'abord, première remarque, on trouve beaucoup ça dans le métabolisme du soufre. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le métabolisme du soufre qui fait qu'on ne peut pas utiliser des donneurs de soufre exogènes dans certains cas, parce que, pourquoi ? Parce que le soufre serait dans certaines conditions trop toxique et qu'on ne pourrait pas en avoir accès facilement dans la cellule sous forme de libre et active. Donc il faudrait, en effet, on serait forcé d'utiliser des soufres de cystéine fixés à la protéine. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, évidemment, il y a toujours, parce que tous ces résultats sont des résultats d'expériences in vitro, dans des conditions donc particulières, hors de la cellule, et on sait très bien que lorsqu'on sort la protéine de la cellule, on peut avoir des comportements qui sont différents. Donc, est-ce que ce sont des artefacts de l'expérience in vitro et qu'on n'a pas trouvé les bonnes conditions ? Pas le bon donneur de soufre, peut-être c'est pas du sulfure, c'est pas du Na2S, mais c'est autre chose. Et voilà ce que je porte à votre réflexion, c'est que peut-être un certain nombre de ces systèmes, et oui, un certain nombre de ces systèmes méritent d'être revisités aujourd'hui si l'on accepte mal, ce qui est un peu mon cas, si on accepte mal que la nature et choisi de sacrifier aussi largement des protéines, et que dans ce cas-là, il faut, à travers des... Hein, vous l'avez vu, ça peut être soit par décomposition d'un acide aminé, cystéine, lysine, on a vu, ou par décomposition d'un cluster, les deux choses... reconstitution d'un cluster, d'un nouveau cluster, ou resynthèse d'une protéine avec le bond d'acide aminé étant particulièrement coûteux pour la cellule. Voilà, donc peut-être qu'il y a certains systèmes qu'il faut revisiter en se posant la question de la possibilité de rendre ces systèmes réellement catalytiques. Voilà, je vous remercie.